la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Et bien une fois encore au CACN pour la nouvelle exposition de Melika Sadé, je l'ai bien dit, oui, qui s'intitule The Hour of Wolf and Sheep, qui dure du 7 au 18 juillet 2026. Et nous allons avant l'artiste. Je viens de suivre une visite de presse très intéressante et déjà bravo Melika. Bravo Guillaume, parce que comment vous trouvez vos artistes ?
J'essaie de faire au plus large possible. Moi, je travaille très souvent en lien avec des écoles d'art et j'essaie, quand j'ai l'opportunité de le faire, de travailler avec des étudiants et des étudiantes. Et c'est comme ça qu'on s'est connus avec Melika, puisque j'avais fait une exposition à Mécènes du Sud à Montpellier en 2022. C'est un projet très long pour l'expliquer, mais en gros, c'est d'une artiste norvégienne qui s'appelle Anna Koutou, que j'avais invitée. On avait fait plusieurs séries de workshops dans lesquelles Melika participait. Et ça s'est conclu par une exposition collective. Et à l'époque, Melika avait montré un ensemble de sculptures qui s'appelait Lego, je crois, et qui étaient des structures avec des tiges métalliques qui reprenaient certains éléments de l'école de Montpellier, d'où elle a étudié. Et il y avait, je pense, qui flottait un peu dans cette exposition, un regard critique aussi vis-à-vis de l'école. Et je pense que c'était la réponse de Melika qui m'avait intéressé. Avec Melika, comme avec l'ensemble du groupe, on a continué à rester en contact, à suivre un petit peu les activités des uns et des autres. Et puis voilà. Donc,
vous trouvez que le lieu du CACN se prêtait bien à l'exposition de Melika?
Oui, je pense. Et puis, je pense parce que cette allure se prête bien aux pratiques culturelles comme ce que fait Melika. Je pense que c'est des sujets qui sont importants aussi, ces questions-là de la maison, de la poste de retour, toutes ces choses-là.
Oui, le titre, c'est « Entre chien et loup ». On peut traduire comme ça, parce que j'ai très mal prononcé. Donc, je préfère dire en français « Entre chien et loup ».
C'est ça. Et puis, c'est aussi, comme tu le disais au début, on est un centre d'art. Donc, on accompagne aussi des artistes qui sont en début de carrière. Et du coup, l'intérêt, c'est ça. C'est qu'on se connaît, qu'on peut travailler ensemble.
Alors, une fois qu'elle est décidée, cette exposition, il faut décider. Trouver un créneau, des dates. Donc là, c'est le début de l'été, du 7 mai au 18 juillet. Le vernissage, c'est donc le 7 mai. Vous, personnellement, Guillaume, une fois qu'elle est accrochée, puisqu'on a eu une visite de presse où chacun réagissait très différemment. « Ah, ben moi, je vois ça. Ah, ben, je ne vois pas du tout la même chose. » De toute façon, ce qui est important, c'est que ça sollicite des questions, une réflexion. Des approfondissements, en quoi c'est, en quelle matière, etc. Votre ressenti personnel, c'est peut-être difficile en tant que directeur d'un centre d'art, non ?
Disons que ça s'est passé évidemment avant l'accrochage, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'échanges qu'on a eus avec Melika, comme ça se passe avec chaque fois que je travaille. Mais c'est vrai que il faut savoir, et notamment par exemple quand on écrit le texte de l'exposition qui cadre un petit peu le projet, il faut savoir de quoi on va en parler, il faut arriver à être le plus précis possible. Et voilà, et donc dans le travail de Melika, effectivement, l'idée c'était pas forcément de se concentrer sur le background de Melika comme c'est pas forcément quelque chose de biographique, mais justement plutôt de se concentrer des choses qui émergent des sculptures. Et je pense, voilà, pour faire une réponse un petit peu en zigzag, mais je pense que c'est pour ça qu'il y avait plusieurs interprétations qui sortaient de son travail. Je crois que c'est un peu ce que Dieu cherche à faire aussi, ce que les gens qui voient cette exposition et qui voient ses œuvres arrivent aussi à y trouver quelque chose qui les touche directement, même s'il y a des sujets, il y a des sujets qui touchent plus certaines personnes que d'autres. Je pense effectivement à ce retour impossible ou difficile, mais en fait, je crois que ça touche à peu près tout le monde directement, parce que c'est pas parce que soi-même on est dans l'impossibilité de retrouver un chez-soi comme on l'a quitté, qu'on peut pas comprendre que d'autres personnes sont dans cette situation. Et effectivement, comme tu parlais aussi dans la visite presse, parfois, ce sont des choses qui peuvent avoir l'air distantes, et en réalité, elle le concerne directement, ou bien on bénéficie directement de ces situations-là, qu'on le veuille ou non. Donc
Donc,
voilà.
il faut se procurer le petit livret hein, qui est disponible, le programme de mai à juillet. Vous avez écrit donc une introduction, vous êtes le commissaire de l'exposition et je pense que c'est intéressant, avant de commencer, peut-être d'avoir déjà une idée ou alors partir totalement vierge en se disant on va regarder, puis on en discutera après. Alors merci Guillaume, et puis on va donner la parole à Milka qui nous écoutait avec attention, qui avait envie d'intervenir. Je le sentais. Et puis on va faire une première pause musicale avec NTS que vous écoutez beaucoup l'un et l'autre pendant que vous accrochez. Il y a besoin de musique, il y a besoin d'atmosphère, il y a besoin de. C'est quoi la musique pour vous, Guillaume?
Alors, ça dépend des accrochages, je pense, et puis ça dépend. Des fois, c'est l'équipe qui met la musique, des fois, c'est l'artiste qui met la musique, et on est assez ouvert à écouter plein de
Vous
choses.
adaptez. Eh bien, merci
Voilà.
Guillaume. Et puis, on peut demander quelle sera la prochaine expo. Non, c'est trop tôt.
Ah oui, on peut le demander. Ça va être Angélique Aubry et Ludovic Béillard qui font un projet qui est aussi long à expliquer là dans un temps si
On
court, mais c'est
reviendra, on
des.
reviendra.
Voilà, c'est de la sculpture et ils vont changer beaucoup l'atmosphère du centre-là.
Merci Guillaume et on termine donc en musique. Et sur Radio Alliance Plus, après donc Guillaume Monceau, le directeur du CACL, j'ai le plaisir donc d'être en face de Milka. Bonjour et je répète bravo. Alors bien sûr, la question qu'on se pose quand on voit votre nom, Milka Sadezadeh, vous êtes iranienne, vous êtes née à Téhéran, vous parliez déjà le français, enfin, vous avez étudié le français par vous-même, hein. Donc la France vous tentait. Vous avez toujours été tenté par la France? Vous saviez que vous viendriez en France assez jeune ou non?
Non, non, c'était un peu quelque chose qui est arrivé aussi par envie de découvrir d'autres cultures et enrichir ses expériences.
Alors, quand vous êtes arrivé en France en 2019, les Beaux-Arts de Montpellier, comment vous aviez eu écho des Beaux-Arts de Montpellier? Comment vous avez fait votre choix?
En fait, moi, quand je suis arrivée, je voulais faire l'école de médecine. Et justement, j'ai fait un an de PACES et ça m'a pas du tout parlé, en fait. Et du coup, j'ai décidé de passer le concours de Beaux-Arts de Montpellier parce que j'étais à Montpellier et j'étais acceptée. Et du coup, c'est un peu, ça s'est fait par la vie, par des événements de la vie, comme
Oui,
ça.
mais enfin, vous étiez des gens très attirés par l'art, je pense que Dion de.
Oui, en
Est-ce que
fait.
vous aviez déjà, je dirais, un acquis artistique, soit manuel, soit visuel, dans les musées, dans les livres?
Moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes. Mon
Ah,
père, il
voilà.
est artiste, peintre et calligraphe. Et ma mère, elle est prof de beaux-arts. Ma sœur, elle est pianiste. Du coup, en fait, c'était assez naturel. C'était quelque chose où, comme on peut dire, c'était capital ou culturel que j'avais accès. Et du coup, c'était aussi pas un choix très difficile.
Vous êtes venu seul en France?
Oui.
Oui, donc il y avait toute le, même la possi enfin, la difficulté peut-être d'adaptation et de se retrouver seul. Donc c'est qu'on va peut-être retrouver justement dans cette exposition, mais qui, je crois qu'il faut bien préciser, il y a peut-être quelques éléments personnels, mais ce n'est pas une biographie, ce n'est pas votre histoire à vous. C'est votre réflexion en fait sur la maison, le départ, pas forcément l'exil. Je pense que.
Moi, je pense que, en fait, ce que peut-être j'ai oublié de tout à l'heure dire, mais que Guillaume, il a un peu remonté et que ça m'a fait réfléchir. En fait, moi, dans mon travail, bah, je pense que l'art est personnel d'une certaine manière, parce qu'on parle des sujets qui nous touchent, qui nous concernent et qui nous parlent, en fait. Et c'est sûr que dans cette manière, c'est personnel. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans l'art, c'est que aussi on peut créer un lien avec des gens. On peut parler des sujets et on peut les questionner en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans mon travail. C'est pas de donner une réponse, mais de questionner des choses. C'est de questionner les violences qui existent autour de nous ou des fois où on s'habitue, on ne les regarde plus, on
Bah,
ça
quand on voit le
s'efface.
contexte actuel, c'est vrai que nous, on continue de vivre tranquillement comme ça, et que les violences qui se passent, elles
Exactement.
semblent très loin.
Oui.
Pourtant, elles existent.
Oui, il semble très loin et des fois, je pense que aussi en Europe, on a l'impression qu'il ne nous touche pas, mais en fait, il nous touche et ça affecte notre vie, l'économie du pays et tout l'ensemble. Et en fait, moi, j'ai pas envie de, dans mon art, de prendre cette position de donner des réponses parce que les choses, elles sont jamais simples, elles sont complexes. Moi, j'ai envie de garder cette complexité. Et pour garder cette complexité, moi, j'essaie d'utiliser des métaphores, de poésie pour créer un espace où on réfléchit ensemble pour questionner les choses. Pas pour nécessairement donner une réponse définitive, mais pour avoir cet espace ensemble.
C'est bien de ne pas avoir de réponse définitive parce que ça nous enfermerait dans des certitudes. Et je disais, là, dans cette visite de presse, nous étions quatre ou cinq et chacun avait une interprétation différente. Mais l'important, c'est que nous ayons posé ces questions. On repart peut-être avec encore beaucoup d'interrogations. On a envie de revenir, hein, on a envie de revenir pour revoir ces œuvres, les regarder en détail. Alors, avant de parler tout de même des différentes salles, parce que ce qui m'a frappé là, Guillaume aussi, c'est que par rapport à d'autres expositions, il n'y a pas énormément d'œuvres. Hein, je crois qu'il n'y en a
Une
que
grosse installation.
des grosses installations. Mais je trouve qu'on a le temps vraiment de voir. Elles sont grosses, mais en même temps minimales, je trouve. On n'est pas agressé, c'est pas le mot. Mais on n'est pas débordé par un tas de choses. C'est-à-dire qu'on prend vraiment le temps. Mais avant de parler de ces œuvres, je voudrais savoir dans vos études, Mélika, comment vous vous êtes spécialisée peu à peu, puisque il y a beaucoup de matières, on sent que vous aimez les triturer, les manipuler, il y a du goudron, vous utilisez le four, ça. Comment ça s'est fait dans vos études? Il y a une étude générale d'abord, et puis peu à peu, vous vous spécialisez.
Au Beaux-Arts de Montpellier, en fait, ça fonctionne où en première année, on fait chaque semaine, on fait un projet avec des matériaux différents. En fait, ce qui est bien dans ce programme, c'est que ça nous permet de en fait, découvrir plein d'éléments, plein de techniques et un peu se trouver aussi de ce qui nous parle plus et de ce qui est plus juste par rapport les idées ou les sujets qu'on a envie de traiter. Et du coup, je pense que ça m'est arrivé naturellement à travers ces expériences d'expérimenter avec plein d'éléments et voir là où je me sens plus dans mon élément. Disons,
Alors, c'est quoi? Vous voulez trouver le mieux dans votre élément.
Ben,
Il
en fait.
faut être assez actif, il faut, c'est ça, hein, il faut.
Ben, moi, j'aime beaucoup, comme vous avez dit un peu, de traiter
Des
des éléments
matières.
et ou reprendre par exemple, des éléments de la maison, de les reproduire différemment, de changer leur nature, la manière qu'ils sont présents dans l'espace. Une poignée, on le voit toujours sur une porte, de le prendre et le mettre dans un autre espace, et c'est aussi jouer avec ça. Et en fait, moi, c'est surtout j'ai trouvé le sujet que j'ai envie de traiter plus que le matériau que
D'accord.
j'ai envie de traiter. Et du coup, chaque fois, c'est vraiment trouver la meilleure manière à traiter ce concept. Donc, des fois, c'est par vidéo, des fois, c'est par dessin, des fois, c'est par des installations, des sculptures.
Et les études vous ont permis d'acquérir toute cette technique, toute cette diversité de matériaux.
Oui, et aussi, je pense que c'est aussi le contact avec les autres personnes. Je pense que c'est toujours l'art, c'est vraiment un travail collectif où c'est à travers des discussions qu'on a avec d'autres personnes, à travers de voir ce que les autres ils font avec les mêmes sujets ou d'autres sujets qu'on s'enrichit en fait. Parce que quand on est tout seul dans notre coin, ça, j'ai l'impression que ça va pas très loin. Du coup, c'est vraiment ce contact avec les autres, avec d'autres artistes qui permet de aussi se découvrir soi-même.
Alors, vous avez été diplômée en 2023. Là, on est en mai 2026. Entre l'obtention du diplôme et maintenant, vous avez fait quoi? Vous avez fait plusieurs, déjà d'autres expositions? Ou c'est la première exposition vraiment consacrée qu'à vous?
En fait, j'étais diplômée mon premier mon licence en 2023 et mon master en 2025.
Ah, d'accord. Donc,
Ouais.
c'est encore plus récent. Donc,
Mais j'ai fait aussi une expo pas très il y a pas très longtemps en mars à l'espace Saint-Ravi. C'était aussi une exposition personnelle, mais c'est à Seine, c'est mon premier exposition personnelle à l'institution. Du coup, c'était très chouette comme expérience.
C'est un grand, grand moment. Et j'ai tout de même été très frappée par ce noir. Vous utilisez beaucoup le noir et blanc, hein? Pas beaucoup de couleurs. Il y a des petites punaises de temps en temps. Le noir et le blanc pour vous, c'est quoi? C'est bien le mal? C'est quoi?
C'est vraiment moi j'ai vraiment pas un intérêt colorimétrique pour le noir ni même pour le blanc. En fait, souvent le blanc qu'on voit dans mon travail, c'est juste soit la couleur de papier, soit c'est l'espace qui est blanc. Et en fait, mes vidéos, en plus, ils sont pas du tout noir et blanc, tout. Mais c'est surtout peut-être que ceux qui se répètent avec cette couleur noire, c'est surtout le procès de brûler.
Oui.
De brûler, ou le goudron, ou le caoutchouc. C'est surtout
Ou de
le
la matière.
matériau et l'histoire que ça raconte, plus qu'une question de couleur.
De couleur.
Et je pense que souvent, j'ai un rapport avec mon travail qui est vraiment pas basé sur le couleur, mais plutôt sur le matériau. Et sur l'objet, qu'est-ce qu'elle raconte elle-même.
Alors, vous aussi, vous travaillez en musique, hein, vous l'avez dit.
Rapidement.
Donc, vous aviez choisi, et on écoute un morceau assez expérimental, donc de Alex G. Alors, sur Radio Alliance Plus, il est temps dans cette exposition du CACL, donc de 7 mai au 18 juillet, entre Chien et Loup, avec Melika, de parler un peu des œuvres. Alors, on ne va peut-être pas faire toutes les salles, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup. Hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment intéressant. On peut se consacrer. Et dès l'entrée, il y a ce, moi j'appelle ça un mur, Suspended Address. Et on sent tout ce concept, en fait, hein, tout de même. Dites-nous comment vous l'avez fabriqué, ce mur.
C'est vraiment, en fait, ça se tient par un bon équilibre. Et en fait, j'ai pris une plaque de numéro de maison en Iran et je l'ai reproduit en cire plus épais, environ 30, 350 fois. Et c'était un peu pour aussi parler d'avoir une adresse, c'est aussi au niveau administratif, une position, ça nous donne un endroit. et d'essayer de l'obtenir ou essayer d'obtenir cette sens de chez soi en continu et de, en fait, de ne pas y arriver et qu'au final, ça devient comme une sorte de mur, en fait, ça devient un bloc. Et en même temps, c'était un peu aussi cette envie de. Bah, les poèmes, c'est qu'ils sont coincés
Oui,
entre
je
les
l'avais dit,
briques.
ils sont coincés entre les briques, oui.
C'était un peu comme des souhaits, comme des envies
Une boîte à vœux.
qui sont coincées, qui sont là et qu'on a envie qu'un jour ça se construise dans cette manière.
Moi, je trouve qu'il y a tout de même, sinon une similitude, une complémentarité entre ces plaques enfin, de numéros et puis les poignées de porte. Parce que souvent, quand on s'en va de quelque part, enfin, moi, je sais, quand j'ai déménagé assez souvent, je prenais toujours la plaque de la maison et une poignée. Donc,
C'est intéressant.
comme si c'était comme un souvenir. Il y en a qui prennent un peu de terre dans un bocal. Non, non, moi, je prenais une poignée et puis voilà. Donc, j'en ai quelques-unes comme ça chez moi. Et la statistique du trauma, hein, 50 poignées en bois. C'est très. Pourquoi vous l'avez appelé statistique? Moi, je voyais une sorte d'escalier de courbe.
Ah, parce que c'était un peu basé sur une statistique. Et en fait, bah, c'était un peu dans cette envie de parler de cet sentiment, de le passage de violence que ça laisse derrière. Et un peu cet sentiment de ne pas passer, genre, fermer une porte, passer à d'autres choses et ne pas pouvoir ouvrir de nouvelles portes, avoir de nouvelles possibilités, être un peu coincé.
Et c'est vrai qu'il y a les salles dans lesquelles on n'entre pas, mais il y a toujours ce petit trou dans le mur que vous utilisez souvent, Guillaume. Il faut laisser ce trou dans le mur. Donc on ne peut pas rentrer dans cette pièce et vous avez appelé cette pièce le bouclier. Moi, ça m'a fait plus penser à un tonneau, mais c'est moins joli. Ce bouclier, c'est quoi? C'est l'autoprotection ou au contraire, c'est l'attaque?
Je pense que c'est un peu les deux et que ça échoue dans les deux cas parce que c'est un bouclier qui est brûlé des deux côtés. Et en fait, c'est une sorte de. C'est à la mesure d'une porte, en fait.
Oui.
Et c'était un peu pour faire référence à l'espace de maison, à la sécurité qu'on associe à cet espace qui n'existe pas toujours.
Ouais.
Et qu'en même temps, on se protège avec cet espace, mais c'est une protection qui échoue aussi, quoi.
Et c'est sûr que vos dessins au fusain, la nuit de dessin qu'on aperçoit à travers le trou, la maison est noire, ça fait penser vraiment aux maisons détruites, hein. C'est du fusain, vous avez gratté dessus. Il y a beaucoup de références aux objets domestiques, hein, je crois.
Oui, parce que pour moi, en fait, les objets sont pas mal témoins de nos vies et de notre société, en fait, dans leur forme, dans leur placement, ça part de nos sociétés, de nos valeurs, de qu'est-ce que c'est, en fait, l'idée dans le système dans lequel on vit, en fait, et c'est dans ce sens-là.
Moi, j'ai spécialement apprécié les tiroirs en bois, clés fondues, céramiques, que vous avez intitulé Le manque de toit, TOI, est un rocher que je porte. Vous avez récupéré des tiroirs, vous les avez empilés. C'est des vieux tiroirs, hein, sculptés, décorés. Ils sont en équilibre. Et dedans, expliquez-nous ce que vous avez mis, puisque nous, on a pu les prendre dans la main. Et c'est très tactile, hein, c'est très. Enfin, je ne sais pas si les spectateurs pourront les prendre, les visiteurs pourront les prendre, mais nous, on a eu le droit. Et prendre une clé dans la main, c'est très symbolique.
Oui, justement, c'est en fait des clés que j'ai récupérées qui sont fondues dans la terre qui a la forme de creux de la main. Et c'est un peu pour, ouais, pour parler de cette. En fait, c'est pour donner forme à un sentiment de manque, en fait. De donner forme à un manque qui nous pèse et qui est constamment avec nous, en fait, comme un rocher qu'on porte dans une poche ou dans la main. Et en fait, c'est pour parler d'un endroit qu'on a quitté, qu'on ne peut pas récupérer, de ne pas pouvoir rentrer chez soi. Et les tiroirs, pareil, c'est en fait, ils sont séparés de leurs meubles, ils sont abandonnés, et de faire en fait un ensemble, comme un sort de collectif.
Alors tout ça, quand je vous écoute, quand je vois vos œuvres militaires, je me demande, c'est toujours la question que je demande face à un artiste. Comment vous viennent les idées? Ça vient brusquement, c'est à force de lecture, à force de réflexion, ça émerge comme ça. C'est compliqué ce que je vous demande.
Moi, je pense que, en tout cas pour moi, il y a beaucoup de. Il y a un processus de recherche, en fait, de lire sur l'histoire, écouter aussi, lire les histoires d'autres personnes, d'autres endroits. Et il y a vraiment un processus de recherche et aussi de conversation. Je pense que, par exemple, cette expo, c'était vraiment construit avec Guillaume et l'équipe de CACN. Et avec Guillaume, on a vraiment travaillé l'espace ensemble.
Vous avez créé des œuvres spécifiquement pour cette exposition, quelques-unes.
Quelques-unes. Et aussi, en fait, avec Guillaume, on a échangé des références, des livres. Et je pense que tout ça, ça enrichit. En fait, les idées, pour moi, ils ne viennent pas de nulle part. C'est qu'il faut enrichir son cerveau, il faut lire, il faut voir pour qu'il y ait des idées qui sortent. Et c'est vraiment.
Et puis, il y en aura d'autres plus tard sur d'autres sujets.
J'espère bien.
Alors, on n'a pas parlé de toutes les autres œuvres. Il y en a beaucoup, beaucoup, enfin, pas beaucoup d'autres, mais il y en a plusieurs. Il y a ces vidéos et on n'a pas osé poser la question quand nous étions devant. Il y a cinq vidéos dans une grande structure noire. Moi, au début, j'ai pensé à Nietzsche, où j'ai pensé à Belphégor, c'est ma référence de jeunesse. Mais on retrouve ce noir et on retrouve ces cinq vidéos. Ça veut dire quoi?
C'était vraiment parce que le sujet de vidéo, c'est vraiment une maison qui se déconstruit, qui se construit en répétition et qui n'arrive pas à changer sa base. Du coup, pour moi, j'avais envie de le mettre en installation et j'avais envie de rejouer ce concept dans la forme de cette installation. Du coup, d'avoir une structure qui est couverte, qu'on n'arrive pas à voir, comme une maison dans la nuit,
oui.
Où on voit que les fenêtres et qu'on n'arrive pas vraiment capturer à quoi elles ressemblent. Du coup, c'était vraiment dans ces idées-là. Après, je pense que ça dépend beaucoup de d'où les gens ils viennent et quel imaginaire ils ont pour voir ce qu'ils voient de l'ombre.
Alors, il y a aussi d'autres questions sur le point de départ disparu avec ces grandes bandes de caoutchouc et des oïliacs, mais qui en fait sont en 3D. Les chenets errants, c'est vrai qu'à l'heure où nous sommes, on ne voit pas trop sur ce papier blanc. Justement, ça incite à la curiosité. Et puis, d'autres impressions sur papier, des photos transverses. Vous êtes heureuse de cet accrochage? Ça vous plaît? Vous allez dire non, il y a Guillaume qui est devant.
Oui, bien sûr. Oui, moi, je suis très contente. Je pense que cet espace vraiment fonctionne bien. Étrangement, avec mes pièces. Et je suis vraiment contente de travailler avec Kim, qui est vraiment incroyable et très intelligente dans son métier.
Il paraît de magnifique.
Et je suis trop contente d'avoir travaillé pour ma première exposition solo avec Kim au CACM.
Merci à vous les deux. Je signale simplement qu'il y a, comme à chaque fois, des ateliers le mercredi. Il faut réserver, je crois, tout de même, hein. Mercredi 13 et 27 mai, 10 et 24 juin, de 15 à 17 heures au CACN. Il y a une journée de rencontre, de partage des créations artistiques avec les classes allophones du quartier Pizmin, le 19 mai, de 11 à 16 heures au CACN. Une visite comptée d'exposition pour les tout petits et petites, le samedi 20 juin à 11 heures au CACN. On peut toujours contacter à contact@cacncentredart.com ou par téléphone 06 59 93 21 22. Merci à tous les deux et très belle exposition, très beau vernissage. Bravo.
Merci.